ben on va tout recommencer parce que on a eu un petit problème technique. Allez, c'est reparti, donc pour qui ou quoi sur Radio Duo. Y a rien qui marche là, mais bon. Allez, cette fois c'est bon. Roman, BD, documentaire, livre pour enfants ou guide de voyage, c'est qui ou quoi sur Radio Duo. Une heure pour vous parler de livres à lire tout à l'heure avant d'aller se coucher ou demain à n'importe quelle heure de la journée. Et cette fois, normalement, c'est la bonne. Donc après un faux départ pour ceux qui étaient là à l'heure, on a tout recommencé parce qu'il n'y avait pas de son dans un micro. Donc ce soir, c'est une émission de rentrée, c'est la première de la saison 2022-2023 et c'est une émission toute particulière parce que nous avons la joie de recevoir Tiphaine. Alors on va faire un essai parce que c'était son micro qui avait l'air de ne pas marcher tout à l'heure. Donc
là, ça marche.
Bonsoir Tiphaine.
Bonsoir. Bonsoir Axel.
Et bien là, ça a l'air d'être bon, donc je te laisse les rênes pour cette émission pendant laquelle tu vas nous parler de livres de Pasolini. Je te laisse tout.
Merci beaucoup, Axel. Merci beaucoup. Donc, je vais parler aujourd'hui, non pas de un livre, non pas de deux livres, mais de trois livres de Pier Paolo Pasolini. Pasolini qui aurait eu 100 ans cette année, puisqu'il est né en 1922. Alors, en France, il est surtout connu pour ses films. Il a réalisé des chefs-d'œuvre. Je vais citer que trois exemples. Théorème, L'Évangile selon saint Matthieu, ou encore Salo ou les 120 journées de Sodome. Mais son œuvre, en fait, est beaucoup plus diverse que ça. C'est d'abord un poète, c'est un statut qu'il revendique même quand il n'écrit pas de la poésie. Et c'est surtout un immense penseur radical, un des plus grands intellectuels italiens, et peut-être même le plus grand du XXe siècle avec Gramsci. Il a aussi été au cours de sa vie peintre, enseignant, romancier, critique et journaliste. Dans la postérité, sa pensée est restée assez méconnue, surtout parce qu'elle scandalisait énormément, que ce soit en Italie ou en France ou ailleurs. Or, ces textes qui ont aujourd'hui 50 ans sont plus éclairants sur notre présent que beaucoup d'auteurs et d'autrices actuels. Aujourd'hui, les références à Pasolini, j'ai l'impression qu'elles reviennent un peu, qu'elles sont de plus en plus courantes. Peut-être parce que le cataclysme de la société de consommation qu'il a tant dénoncé apparaît désormais évident, puisque le bien-être qu'elle promettait à la population est remis en cause. Alors, pour citer trois exemples, sur le site Lundi Matin, en septembre, on a eu plusieurs articles ces dernières semaines sur Pasolini. Au cinéma Le Méliès, à Saint-Étienne, a eu lieu une rétrospective de ses films pendant tout l'été. Et au théâtre Le Verseau, à Saint-Étienne également, une pièce adaptée de ses textes a été jouée la semaine dernière. Alors, les trois livres dont je vais parler sont trois compilations d'articles de presse, puisqu'il a été journaliste. Il a écrit dans plusieurs journaux italiens comme Il Tempo, Il Corriere della Sera, Il Mondo. Et dans l'ordre chronologique, il s'agit d'abord du Chaos, donc premier recueil d'articles qui rassemble des articles écrits entre l'été 68 et le début de l'année 70, donc pendant le mouvement de 68 et son échec. Le deuxième recueil, qui est aussi le plus connu et celui que je recommanderais peut-être en priorité, ce sont les écrits corsaires, qui regroupent des articles écrits entre 73 et 75. Enfin, il s'agit des lettres luthériennes, le troisième recueil, qui regroupe des articles écrits durant l'année 75, entre mars et juin pour être précise, soit quelques mois avant son assassinat. Alors, ce travail qu'il a commencé en 68, Pasolini le présente lui-même comme un front de petites batailles quotidiennes. En fait, Pasolini utilise tous les faits d'actualité, que ce soit les petits faits divers ou les grands événements internationaux, par exemple la conquête de la Lune. Il va servir de tous ces faits, de tous ces sujets, pour produire des réflexions politiques et philosophiques, que ce soit sous forme d'essais, mais aussi de poèmes, de récits de voyage, de critiques littéraires, de critiques de films, de lettres ouvertes, que ce soit des réponses à des lecteurs indignés anonymes ou à des personnalités connues, mais aussi des témoignages plus personnels. Par exemple, il fait un peu le compte-rendu des persécutions judiciaires qu'il subit, par exemple à la sortie du film Théorème. Alors, Pasolini se présente lui-même comme un marxiste qui vote pour le Parti communiste italien, le PCI. Pourtant, son frère cadet, qui était résistant communiste pendant la Seconde Guerre mondiale, a été assassiné par d'autres résistants communistes à la fin de la guerre. Mais cette tragédie personnelle n'a pas empêché Pasolini de s'engager au Parti communiste italien pendant quelques années, jusqu'à ce qu'il en soit exclu en 1949 pour son homosexualité. Dès lors, Pasolini va devenir un auteur acharné et en même temps un cinéaste qui connaît un immense succès public et qui va remporter des prix internationaux, notamment à Cannes, à Berlin. Il est aussi un communiste, mais totalement hétérodoxe, qui va se singulariser à tous les niveaux. Il est un marxiste athée, mais passionné par la vie du Christ, et qui va attacher une grande importance à tout ce qui est sacré, au sentiment du sacré. Un marxiste qui va s'attaquer au conformisme des autres marxistes, au point que certaines de ses prises d'opposition vont apparaître conservatrices aux yeux de beaucoup, notamment il est opposé à l'avortement. Alors, en réalité, une des raisons pour lesquelles il s'oppose à l'avortement, c'est qu'il croit que l'avortement va entraîner une institutionnalisation du coït hétérosexuel, c'est donc pas pour des motifs conservateurs, comme la plupart des opposants à l'avortement à l'époque. Pasolini est aussi capable de s'abjurer lui-même. Il revendique le droit à la contradiction. Il est aussi le premier romancier italien depuis le fascisme qui va éveiller des envies de censure de toutes parts. Une personnalité dont les apparitions publiques entraînent des émeutes. Il sera la cible de dizaines de procès dont aucun n'aboutira à des poursuites, mais il finira assassiné. Alors, Pier Paolo Pasolini a inventé un nouveau type d'intellectuel engagé. Sur tous les sujets, il essaye d'imposer un débat et de briser le silence. Et il parle avant tout de son pays, l'Italie. Alors on est au début des années de plomb, après l'échec du mouvement de 68. L'Italie est alors gouvernée par la démocratie chrétienne depuis la chute du parti fasciste. Donc la DC, c'est un parti anticommuniste, catholique, conservateur, qui va rester au pouvoir pendant un demi-siècle, soit pendant toute la guerre froide. La démocratie chrétienne se présente comme un opposant au fascisme, et Pasolini va démontrer magistralement qu'il en est la continuité absolue et le meilleur allié. Une autre singularité de Pasolini, c'est son style unique. Ses réflexions politiques sont écrites à la manière d'un poète. C'est aussi un auteur qui s'identifie toujours aux pauvres, aux sous-prolétaires, aux marginaux. Il a vécu lui-même avec sa mère dans les années 50 dans la banlieue de Rome, entouré de sous-prolétaires. Et surtout, sa posture d'écrivain, c'est se passer d'autorité. Il n'a aucun respect pour tout ce qui est institué, que ce soit du côté du pouvoir ou de ses opposants. Cette posture lui donne d'ailleurs une très grande force à sa pensée. Il écrit, je cite, « Je n'ai rien à perdre, rien à gagner. Je peux tout dire. J'ai autant d'adversaires chez les communistes que chez les bourgeois. » Et dans un de ses derniers articles, qui est une lettre publique à Italo Calvino, donc qui a été publiée dans les lettres luthériennes, il se revendique luthérien, ce qui a donné le titre à ce recueil. Donc luthérien, pas au sens religieux, mais comme une posture politique. Pour lui, les catholiques sont ceux qui restent silencieux, alors que les luthériens sont ceux qui parlent, qui brisent le silence, qui tentent de tout expliquer, et qui continuent même de parler, même quand ils sont entourés du plus profond des silences. Pasolini se fait donc des ennemis de toutes parts, mais avec lesquels il ne renonce jamais à dialoguer, qu'il soit intellectuel, journaliste, figure du parti au pouvoir ou encore étudiant de 68. Il va ridiculiser dans ses écrits les très nombreux contradicteurs, qui déforment ses propos, qui lui font dire des choses qu'il n'a jamais écrites, qui ne le prennent pas au sérieux parce qu'il est homosexuel. Et cette attitude à la fois très indépendante et très intransigeante a un prix, des persécutions constantes, qu'il va subir de 49 à 75. Il va faire l'objet d'un harcèlement judiciaire permanent. Le premier procès a donc lieu en 49. Pasolini a 27 ans. Il est accusé de détournement de mineurs et d'obscénité sur la voie publique après avoir eu une relation sexuelle avec un jeune homme. Ce jeune homme s'est confessé chez un curé et le curé a lancé une rumeur infamante. En réalité, son seul tort, bien sûr, c'est d'être homosexuel. Il va alors être limogé de son poste d'enseignant, exclu du Parti communiste italien, et va devoir quitter le Frioul pour Rome. Il sera acquitté plusieurs années après, mais son homosexualité, malgré tout, sera un motif d'acharnement et de mépris toute sa vie. Il faut aussi rappeler qu'on est dans le pays de la papauté, et dans les années 50, 60, 70, l'homosexualité est alors perçue massivement comme une tare et un crime. L'année de sa mort, Pasolini écrit encore « Je suis comme un noir dans une société raciste qui a voulu se gratifier d'un esprit de tolérance. Autrement dit, je suis un toléré. La tolérance est bien sûr pour lui la forme la plus raffinée de la condamnation. Elle est brandie comme une nouvelle valeur pour le pouvoir, mais Pasolini va démontrer qu'il s'agit d'une fausse tolérance. Et il rappelle par exemple que si Jean Cocteau s'est suicidé, c'est qu'il était intolérable d'être toléré. Il ajoute « Personne n'a jamais répondu à mes polémiques sur l'antifascisme autrement que d'une manière raciste, c'est-à-dire en faisant des inférences sur ma personne. On a ironisé, on a ri, on a accusé. Ce que je dis n'est pas digne d'autre chose. Je ne suis pas une personne sérieuse. » Après ce premier procès, presque toutes ses œuvres, que ce soit des livres ou des films, vont faire l'objet de dénonciations, de procès d'interdiction. Dès son premier roman, I ragazzi, en 1955, qui parle de prostitution masculine, il est jugé pour obscénité. Rebelote, en 1958, Une vie violente, donc encore un roman, où les protagonistes, cette fois, sont des sous-prolétaires. Pareil, procès pour obscénité. Son premier film, Acatone, qui sort en 1961, est jugé contraire à la morale, parce que, encore une fois, il met des sous-prolétaires à l'écran. Il entraîne un déluge de sarcasme raciste contre le sous-prolétariat. En 1963, pour son film La Ricotta, Pasolini est condamné à 4 mois de prison avec sursis pour outrage à la religion d'État, mais sa peine est annulée en appel. En 68, le film Théorème, qui est une vive critique de la bourgeoisie italienne, fait un immense scandale. Un ami de son producteur lui a prédit que s'il sortait ce film, on le mettrait en prison. En Italie, il va subir 2 procès, malgré un très grand succès à l'étranger, notamment en France. La même année, sous la pression, Pasolini doit aussi renoncer à un film sur Saint Paul. Il voulait montrer dans ce film que le message religieux du saint est aux antipodes de l'inégalité sociale, de l'impérialisme et de l'esclavagisme de la société de son temps. En 1970, la rubrique « Le chaos », donc dans laquelle, dont il est question dans le premier des recueils, est supprimée. Ses observations sur des hommes influents n'ont pas résisté à la censure. L'année d'après, le film « Decameron » entraîne 80 dépôts de plainte pour obscénité. Et en 1975, quand il meurt, Pasolini vient de terminer son film le plus violent, un chef-d'œuvre antifasciste, qui va faire un immense scandale en Italie, Salò ou les 120 journées de Sodome. Il y met en scène la réduction en esclavage sexuel d'adolescents par la bourgeoisie fasciste. Pasolini fait aussi l'objet d'un acharnement dans la presse et à la télévision de ses adversaires politiques, mais pire, il est souvent accusé à tort, devant la justice, de façon grotesque, de complicité dans des crimes.
Door. Things get into gore.
retour sur le 895 de Dio dans l'émission Qui ou quoi, et je vous parle ce soir de trois livres de Pasolini, Le chaos, les écrits corsaires et les lettres luthériennes. Alors le thème majeur des articles de Pasolini, c'est le fascisme, et plus précisément le nouveau fascisme. Alors qu'il distingue du fascisme officiel de l'ancien fascisme, incarné par le parti fasciste de Mussolini, qui a pris le pouvoir en 1922, il y a exactement 100 ans, qui s'est allié à Hitler et qui est tombé pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais si le parti a disparu, le fascisme perdure sous une forme nouvelle, et ce propos est absolument central dans les écrits de Pasolini. On pourrait faire un parallèle d'ailleurs avec les études actuelles de l'historien Johann Chapoutot, qui lui démontre la porosité et la continuité du nazisme dans les sociétés d'après-guerre, notamment par le biais du management, que ce soit en Allemagne ou dans toutes les sociétés occidentales en général. Le fascisme de Mussolini, lui, s'appuyait sur des institutions comme l'Église, la famille, la patrie, le cléricalisme ou l'ordre. Et ces institutions sont en train de péricliter à la fin des années 60. Mais le nouveau fascisme, lui, se passe de ces institutions, il n'en a pas besoin. Il est bien plus dévastateur, en fait, puisqu'il séduit tout le monde. Il s'agit de la société de consommation. Alors, il est bien plus redoutable parce qu'il ne repose plus sur la répression, mais sur l'adhésion des classes dominées, en leur promettant confort et bien-être. Et ce, dans le même objectif contre-révolutionnaire que le fascisme fasciste. Alors, dans le manifeste du Parti communiste, Marx et Engels expliquaient « La bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner constamment les rapports de production, c'est-à-dire l'ensemble des rapports sociaux. Cela distingue l'époque bourgeoise de toutes les précédentes. Tout ce qui avait été solidité et permanence s'en va en fumée. Tout ce qui était sacré est profané. » Dans les années 60, donc, l'arrivée de la consommation de masse représente une nouvelle offensive du capitalisme. Et tout repose désormais sur la production de superflu, sur un développement cynique et aveugle, et sur l'américanisation. Pour Pasolini, ce nouveau fascisme est pire et plus totalitaire que l'ancien. Il montre bien que sous Mussolini, l'enrégimentement était superficiel. Quand le régime est tombé, d'ailleurs, tout est redevenu comme avant. Les gens n'avaient pas été transformés en profondeur. Même les militants fascistes, les chemises brunes, quand ils ôtaient leurs uniformes, redevenaient des Italiens. D'ailleurs, il y a un film de Fellini, dont Pasolini est un grand admirateur, qui est passé au Grand Luxe récemment, un film de 73 qui s'appelle Amarcord, dont l'action se passe dans les années 20 et 30, sous le fascisme de Mussolini. Et ce film montre très bien cette situation. Il met en scène des Italiens et on voit bien que les Italiens restent des Italiens sous le régime fasciste. Dans les années 60, c'est différent. La société de consommation se met à transformer en profondeur à la fois les façons de penser, le langage, les manières de vivre, les modèles culturels. L'embrigadement est donc réel et total. D'ailleurs, c'est drôle parce que l'embrigadement est revendiqué, notamment par des grands défenseurs du système capitaliste, notamment Margaret Thatcher, qui, en 1981, dans une interview, a déclaré « Economics are the method, the object is to change the soul », c'est-à-dire que l'économie n'est qu'une méthode pour transformer les âmes, ce qui est la priorité absolue. Et pour Pasolini, les plus grands représentants du nouveau fascisme sont ceux qui l'ont laissé s'installer, c'est-à-dire les membres du parti au pouvoir qui s'autoproclament eux-mêmes centristes. Pasolini écrit « Peu de personnes dans toute l'histoire de l'humanité ont eu l'occasion de vivre en quelques années, 6 ou 7, des changements plus radicaux que ceux vécus par les Italiens adultes depuis la fin des années 60. » Il assiste alors désespéré, sidéré à la catastrophe que tout le monde perçoit alors comme un progrès. Cette catastrophe, c'est l'uniformisation de la population italienne, le grand rêve des fascistes des années 20, qui était d'unifier toutes les classes sociales pour contrer la lutte des classes, et qui est en train de se réaliser dans les années 60. Cette catastrophe, c'est l'embourgeoisement en profondeur du prolétariat, du sous-prolétariat, de leurs valeurs. Par le biais de l'hédonisme, la bourgeoisie impose ses valeurs à toute la société qui reproduit sa culture de manière mimétique. On assiste alors à une dépolitisation accélérée des masses. Et le danger, alerte Pasolini, c'est que cela soit irréversible. Cette catastrophe, c'est aussi la destruction brutale des dialectes, mais aussi des valeurs anciennes de la société paysanne. Il parle d'un génocide culturel. Auparavant, les ouvriers et les paysans avaient une conscience de classe, même sous le fascisme fasciste. Mais cette époque, dit-il, est révolue. Il l'appelle d'ailleurs cette époque le temps des lucioles. L'époque où ces insectes illuminaient encore les nuits. Il est très sensible à la disparition des lucioles liée à la pollution, qui est pour lui une métaphore du cataclysme en cours, et qui est le titre aussi, la disparition des lucioles, d'un article célèbre de ses écrits corsaires. Alors beaucoup de contradicteurs vont lui reprocher de regretter le fascisme mussolinien de l'Italie d'avant, mais c'est une déformation absolument grotesque de ses propos. Pasolini voyage beaucoup et même énormément, pour l'époque surtout. Il voyage évidemment en Italie, dans toute l'Italie, mais aussi en France, aux États-Unis, en Turquie, au Brésil, en Inde, au Maroc, au Yémen, en Tanzanie, en Ouganda, etc. etc. Enfin, j'en passe. Et tous ces voyages lui permettent de constater que le monde entier est frappé par le même processus d'uniformisation et d'acculturation. Il constate que toutes les cultures du tiers-monde sont en train d'être détruites, que toutes les grandes villes se mettent à se ressembler désormais, qu'elles sont toutes déformées par les mêmes quartiers d'affaires, par les mêmes usines. Et ce constat est fait en France, en fait, dès les années 50 par les situationnistes. Mais Pasolini insiste sur un point. Pour lui, la catastrophe qui touche le monde entier est encore plus marquée en Italie que dans les autres pays occidentaux. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première raison, c'est que l'Italie, c'est un des pays du monde occidental où il y avait le plus de cultures particulières et de dialectes particuliers avant, et l'uniformisation s'en ressent d'autant plus brutalement. D'autre part, c'est que l'Italie n'a pas été préparée comme d'autres pays, comme la France, par exemple, par d'autres acculturations préalables, comme celle de l'État monarchique, de la révolution bourgeoise ou encore de la première révolution industrielle. Et pour Pasolini, il y a deux choses qui vont permettre de diffuser massivement les valeurs du nouveau fascisme, c'est l'école obligatoire et la télévision. Alors l'école, elle, est une initiation à la vie petite bourgeoise. On y enseigne des choses inutiles et fausses. On y acculture les jeunes à une mode morale répressive. Et la réussite scolaire rend présomptueux, angoissés et frustrés. Alors que les prisons devraient ressembler à des écoles, ce sont les écoles qui tendent à être des prisons. La télévision, quant à elle, est criminelle. Son rapport aux spectateurs est autoritaire. Il n'y a aucun dialogue. Le philosophe allemand Günther Anders, dès les années 50, en 56 pour être précise, dans L'obsolescence de l'homme, avait qualifié la télé de symbole de l'asservissement total des hommes. Pasolini, quant à lui, écrit « Jamais un modèle de vie n'a vu sa propagande faite avec autant d'efficacité qu'à la télévision. Le type d'homme ou de femme qui compte, qui est moderne, qu'il faut imiter et réaliser, n'est pas décrit ou analysé, il est représenté. » C'est à peu près exactement de cette façon que Guy Debord a défini le spectacle. Le niveau culturel que la télé diffuse est très bas pour mieux asservir la population. La publicité qui est montrée est raciste, puisqu'elle ne se réfère qu'au mode de vie de la petite bourgeoisie, du moins à l'époque. La télévision est utilisée par le pouvoir industriel pour conditionner les soirées familiales, et elle fait du téléspectateur un pauvre type réduit à voir et à écouter. Il prend l'exemple de la conquête de la Lune par les États-Unis en 69. Il s'agit d'une énorme entreprise capitaliste, mais devant laquelle les téléspectateurs sont réduits à rester bouche bée, à être infantilisés. On s'en réduit à admirer l'événement sans pouvoir le critiquer. D'autre part, Pasolini prévient que l'abandon des anciennes valeurs paysannes est le terreau sur lequel a grandi l'Allemagne nazie. Avec l'arrivée de la société de consommation, une énorme masse de gens est devenue flottante, leurs valeurs sont devenues impondérables, indéterminées. Dans le chaos, il avertit que la nouvelle sous-culture officielle mène au fascisme, au nazisme, aux camps de concentration et au génocide. Ces avertissements ne sont évidemment pas pris au sérieux à l'époque, et pourtant, Pasolini est le seul à avoir vu venir la dépolitisation du pays, alors que tout le monde voyait à cette époque une démocratisation. Et cette dépolitisation est précisément une des causes majeures et profondes de, déjà, la victoire de Berlusconi en 1994, hein, première victoire de l'extrême droite, puis la nouvelle victoire électorale de l'extrême droite, 28 ans après, il y a quelques semaines. Pasolini est donc totalement désespéré par ces transformations. Et encore, mort en 1975, il n'a pas assisté à tous les désastres ultérieurs, le perfectionnement du capitalisme néolibéral après les années 70, il n'a pas vu l'ampleur du désastre climatique, ni l'aggravation de l'embrigadement après la chute du mur, ni celle de l'abêtissement par les nouvelles technologies, il n'a pas assisté à l'extension totalitaire des espaces de consommation, il n'a pas vu les gouvernements néolibéraux complices de la droite raciste la plus décomplexée, il n'a pas assisté à l'ubérisation de la société, il n'a pas entendu la langue misérable des nouveaux experts et des intellectuels organiques qui est devenu hégémonique. Il n'a pas vu l'entêtement de la gauche et des gauches à trahir les populations en acceptant le développement capitaliste. Et il n'a pas assisté à la quasi-disparition de l'alternative communiste dans le paysage électoral. Something is wrong. She falls.
something is wrong.
De retour sur Radio Dio dans l'émission Qui ou quoi, et nous parlons ce soir de Pasolini. Alors, catastrophé par le cataclysme de la société de consommation qui ravage la société italienne, comme j'en ai parlé précédemment, Pasolini dépeint toutes ses conséquences culturelles et anthropologiques avec un désespoir de poète. Alors, en dehors du génocide culturel, de l'uniformisation et de l'acculturation du monde qui le frappe énormément, comme j'en ai parlé, hein, il parle aussi de la déformation des facultés intellectuelles et du terrible appauvrissement de la langue et de l'expressivité, en particulier chez les jeunes, chez qui le langage verbal est remplacé par un argot sans créativité, ou encore pire, des ricanements, des gémissements qui viennent remplacer les mots. D'ailleurs, en 1988, Guy Debord écrira « La conversation est presque morte, et bientôt le seront beaucoup de ceux qui savaient parler ». Pour Pasolini, le nouveau fascisme est aussi symbolisé par le jean t-shirt que tout le monde se met à porter, qui est l'emblème de la disparition des particularismes culturels. L'humour bourgeois aussi triomphe. Il montre que la moquerie est devenue omniprésente. Les gens ne savent plus sourire, ils ne savent plus que rire des autres, sourire des autres. Ils se mettent à plaisanter de tout en réduisant la portée de tout, ce qui est caractéristique du rapport à la réalité du petit bourgeois. Il dit aussi que la voiture est devenue sacrée pour les jeunes. Il parle d'une religion du moteur qui est apparue. Les jeunes savent parler de leur voiture, ils ne savent plus parler de leurs amours ni de leur travail. Il dit aussi que toute la population des classes populaires est acculturée à la petite bourgeoisie. Et il ajoute, comme les SS de Hitler, le sous-prolétariat est devenu une classe de gens odieux, délinquants, névrosés, qui ont désormais honte d'être des ouvriers. En conséquence, le crime et la violence ont explosé. Et le pire, c'est que dans cette nouvelle société, les criminels ont le visage de monsieur et madame tout le monde. Tout le monde s'est mis à ressembler aux délinquants qui sont au pouvoir. La drogue aussi est en quelques années devenue un phénomène massif, alors qu'avant, son usage était strictement bourgeois. À partir des années 60, son usage devient massif, puisqu'il vient remplir un vide culturel béant. Pasolini est particulièrement marqué aussi par l'effet de la consommation de masse sur la jeunesse, et il en dresse un tableau extrêmement sombre. Il écrit « J'ai vu la jeunesse, la plus sympathique de toute l'Italie, romaine, prolétaire et sous-prolétaire, se transformer en la plus odieuse. » Alors, ces remarques sur les jeunes concernent, selon lui avant tout, l'ensemble des jeunes italiens, mais à l'exception de certains qui sont soit militants au Parti communiste italien, donc les jeunes militants, soit les jeunes de certaines régions, comme celle de Naples ou du Haut Latium. Il montre que, sous l'influence de l'école et de la télévision, les jeunes sont devenus, en quelques années seulement, des petits bourgeois, chipoteurs, complexés, racistes, stupides, présomptueux, stéréotypés et tristes. En bref, ils sont devenus des modèles de comportement dans la société de consommation. Et ce, qu'ils soient contestataires, catholiques, voyous, sportifs, futurs cadres dirigeants ou encore communistes orthodoxes. Ils ont tous un désir anxieux de normalité, de conformisme et de répression. D'ailleurs, dans les cours d'école, on voit arriver la pratique massive de l'intimidation, du chantage, on trouve des jeunes qui se mettent à trouver des boucs émissaires. On parlerait aujourd'hui de harcèlement. Les jeunes des classes populaires sont désormais soit très agressifs, soit totalement passifs. Ils sont en tout cas frustrés de ne pouvoir atteindre les modèles proposés par la télévision, la pub et l'école. Et Pasolini prévient, ces énormes masses de jeunes vivant dans une société sans valeur pourraient fournir par la suite de puissantes troupes néo-nazies. Une autre conséquence qu'il relève, c'est l'anti-intellectualisme, qui semble devenir la norme. Il écrit « Dans notre civilisation, un geste, une accusation, une prise de position, on pourrait ajouter aujourd'hui un tweet, importe davantage qu'un travail littéraire étalé sur des années. » Une autre conséquence, enfin, c'est les conséquences de la société de consommation sur la sexualité. Malgré les promesses de libération, la sexualité est devenue plus aliénante que jamais. Parce que la prétendue libération sexuelle, puisqu'elle est offerte par le pouvoir, est devenue une obligation sociale, donc une source d'obsession et d'anxiété qui prive les jeunes de toute exaltation au lieu de leur apporter bonheur et légèreté. Pasolini est passé pour un réactionnaire auprès de beaucoup de monde, même de certains de ses amis proches, pour ses prises de position sur la sexualité. Et même si on ne peut pas être d'accord avec lui sur certains points, ce qu'il dit, les arguments qu'il utilise font toujours réfléchir, il produit toujours de la pensée. Bien sûr, on peut regretter qu'il soit passé globalement, voire totalement, à côté des luttes féministes de son époque. Encore faut-il rappeler que le féminisme de l'époque était avant tout porté par des bourgeoises. Je pense qu'au fond, le fond de son propos n'est jamais réactionnaire, comme beaucoup l'écrivent. Il tombe jamais dans l'essentialisme. Il dénonce toujours l'essentialisme. Il s'acharne toujours à montrer que dans une société capitaliste, il ne peut y avoir de vraie libération. C'est ça son vrai propos. Il ne peut y avoir de libération dans aucun domaine. Et dans toute son œuvre, notamment au cinéma, même si je ne veux pas m'étaler sur son œuvre cinématographique ou littéraire, mais en tout cas dans tous ses livres et ses films, Pasolini essaye d'opposer à cette nouvelle humanité consumériste une autre humanité fondée sur l'amour, la joie et le rire. With the Nous sommes de retour sur Radio Dio dans l'émission Qui ou quoi, et je vous parle ce soir de Pier Paolo Pasolini et de ses recueils d'articles Le Chaos, les écrits corsaires et les lettres luthériennes. Alors pour présenter sa rubrique Le Chaos en 68, alors qu'il démarre tout juste ce travail journalistique en quelque sorte, Pier Paolo Pasolini annonce qu'il parlera de la bourgeoisie avec violence. Pour lui, la bourgeoisie est davantage d'ailleurs une maladie qu'une classe sociale. Une maladie, je cite, « si contagieuse qu'elle a contaminé tous ceux qui la combattent, des ouvriers du Nord aux ouvriers immigrés du Sud, aux bourgeois de l'opposition ». Pasolini s'attaque aux valeurs défendues par les bourgeois, qu'ils soient de droite ou de gauche. Alors François Bégaudeau, dans « Histoire de ta bêtise », hein, rappelle que, avant d'être des gens de droite ou de gauche, les bourgeois sont avant tout des bourgeois. Pasolini lui s'attaque notamment au bon sens, qui est brandi par tous les bourgeois et qui justifie la répression et le lynchage raciste de tous les exclus, sous-prolétaires, prostituées, homosexuels, voleurs, etc. Il s'oppose évidemment aux fascistes, mais sans jamais refuser le dialogue avec eux. Alors qu'il n'est affilié à aucun mouvement, il n'hésite jamais à critiquer la gauche, donc sa propre famille politique. Il démasque d'abord de nombreux intellectuels de gauche, et il montre qu'ils sont en réalité des alliés de la droite, parce qu'ils sont moralistes, parce qu'ils sont soulagés de l'échec de 68, parce qu'ils ont un désir anxieux de rester modérés, parce qu'ils ne sont pas scandalisés par la démocratie chrétienne et son langage monstrueux, et parce qu'ils tombent dans les lieux communs de l'humanisme et du catholicisme. Il rappelle que les socialistes sont des bourgeois avant tout, et qualifie même le snobisme du Parti socialiste italien de terrorisme de gauche. Il critique aussi le moralisme et le conformisme de nombreux militants d'extrême-gauche, ses alliés, qui voudraient pousser à la réflexion. Par exemple, leur référence obsessionnelle à certains mots comme « Vietnam » ou encore « système ». Le fait qu'il privilégie aussi l'action sur la pensée, une inclination culturelle petite bourgeoise. Il vise ici surtout Tony Negri et le mouvement Potere Operaio. Il dit que ces militants commettent de lourdes confusions. Par exemple, leur antifascisme est de mauvaise foi puisqu'il est orienté contre le fascisme à l'ancienne. Il a pour objet un fascisme qui n'existe plus, qui n'existera plus jamais, puisqu'un chef à la Mussolini ne serait plus crédible dans le monde moderne. Il montre aussi que ces militants sont esclaves de terminologies, de phrases toutes faites, de lieux communs, et donc que leur langage est petit bourgeois. Il écrit quelque chose d'important. Il faut instaurer un rapport intelligent, et spécialement dans la lutte ouverte avec le pouvoir, et non se limiter à le charger de tous les maux en cherchant avant tout à rendre cette opération d'autant plus méritoire qu'elle est extrémiste. Il ne ménage pas le mouvement de 68, et certains lui reprochent d'ailleurs à juste titre de l'avoir réduit à un mouvement bourgeois de fils à papa et récupéré par le pouvoir, et de n'avoir pas su voir qu'il était aussi et surtout émancipateur. D'ailleurs Pasolini lui-même, qui n'a pas peur de s'abjurer, et c'est même une de ses grandes forces d'ailleurs, reconnaîtra dans un article à l'automne 69 que les étudiants qui lui reprochaient de ne pas soutenir le mouvement avaient au fond raison. Pasolini n'hésite pas non plus à critiquer le Parti communiste italien. Alors, il faut rappeler que le PCI est très fort à l'époque puisqu'il représente 25 à 30% des électeurs. Et Pasolini affirme d'abord que l'existence du PCI, c'est le salut de l'Italie, et que s'il venait à disparaître, ce serait un retour à l'Allemagne des années 30. Il considère que ce parti est un pays dans le pays, honnête et intelligent. Alors, il est mort en 75, donc il n'a pas été témoin du compromis historique désastreux qui a eu lieu entre le PCI et la démocratie chrétienne au pouvoir, juste l'année suivante, en 76. Malgré tout, il s'est déjà rendu compte des manquements du Parti communiste italien. Il montre qu'au fond, il accepte la démocratie chrétienne, qu'il refuse d'analyser globalement la situation politique, qu'il ne rejette pas la société de consommation, donc la nouvelle contre-révolution bourgeoise, et que ce parti a des lacunes culturelles, avec des représentants, des dirigeants qui ne lisent plus du tout. Il pense notamment à Maurizio Ferrara. Il dit aussi que beaucoup de communistes, et la plupart en fait, se contentent de s'indigner contre les gens d'extrême droite et ne font rien pour qu'il n'y en ait plus, puisqu'ils refusent de leur parler. Ceci dit, la plus grande cible de Pasolini, ce n'est pas le Parti communiste, c'est bien sûr la démocratie chrétienne qui est au pouvoir. Il révèle ce que c'est ce parti, parti considéré comme centriste, qui rassemble, comme il le démontre, les vrais fascistes de son temps. Ce parti, je rappelle, va rester au pouvoir depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 80. Il est incarné par des figures comme Andreotti, Aldo Moro. Pasolini montre que ce parti dirige un régime policier et parlementaire au service du grand capital. Il organise des référendums pour préserver l'apparence démocratique. Alors il y a eu deux phases principalement. Première phase, au début de la guerre froide, le parti a mené une croisade anticommuniste avec l'aide de la CIA, de la mafia. Et puis, deuxième phase, dès les années 60, il a adopté un discours antifasciste purement formel, tout en soutenant le nouveau fascisme, l'hédonisme déchaîné, le faux laïcisme, puisque le seul discours laïque, c'est celui de la télé, une fausse tolérance qui a mené au final à la marginalisation des Italiens du Sud, qui sont devenus dans le même temps des citoyens de seconde zone. Enfin, un anti-intellectualisme caractéristique de la petite bourgeoisie. Et Pasolini tente de briser le silence de mort qui règne sur l'inaptitude de ce parti au pouvoir. Il a d'ailleurs bien compris qui étaient les centristes autoproclamés. Il écrit « La déclaration d'équidistance des deux partis extrêmes constitue objectivement un appui à la partie droite. » Bon, ce qui est totalement vérifié dans la France d'aujourd'hui, hein, où les macroniens ont des discours d'extrême droite, où ils ne cessent de faire alliance avec l'extrême droite pour contrer la gauche, etc. Dans ses articles, enfin, Pasolini affronte nommément et sans pincette de nombreuses personnalités connues. Alors, sans pincette, mais ce n'est jamais gratuit puisqu'il répond aux persécutions subies. Je donne quelques exemples. Il accuse l'écrivain Italo Calvino d'assumer de critiquer son œuvre sans l'avoir lue, de déformer ses textes, ce qui est digne, dit-il, des méthodes fascistes. Il dénonce l'homophobie de l'écrivain Umberto Eco. Il accuse le politique Andreotti de vanter l'action de son propre parti, la démocratie chrétienne. Il qualifie le journaliste Casalegno de faux antifasciste, d'anti-intellectualiste, de bourgeois et de gardien des financiers. Il accuse Pietro Nenni, un socialiste exilé sous le fascisme, de s'être allié à la démocratie chrétienne, donc à l'ordre et au pouvoir. Il accuse Giuseppe Ungaretti d'être devenu le poète officiel de la bourgeoisie. Ou encore, il accuse le journaliste Luigi Firpo d'être un voyou qui protège le pouvoir. Nous sommes de retour sur Radio Dio dans l'émission Qui ou quoi et je parle ce soir de Pasolini pour la dernière partie de l'émission. Alors Pier Paolo Pasolini écrit ses articles durant l'Italie des années de plomb, une période où surviennent des massacres qui vont marquer profondément l'histoire du pays. Au total, il va y avoir pas loin de 700 attentats et plus de 350 morts. Alors, il y a trois gros massacres qui retiennent avant tout son attention. Le premier, c'est l'attentat de Piazza Fontana à Milan, le premier en fait de la période, hein, en 1969, qui va faire 17 morts et 88 blessés. On accuse d'abord des anarchistes, à tort, puis des fascistes. Le deuxième, c'est le massacre lors d'une manifestation antifasciste, place de la Loggia, à Brescia, en mai 1974, qui fait 8 morts et 102 blessés. L'extrême droite est immédiatement accusée. Et le troisième, c'est l'attentat contre le train de nuit Italicus Express, près de Bologne, en août 1974, qui fait 12 morts et 48 blessés, qu'il ne faut pas confondre avec l'attentat de la gare de Bologne, qui aura lieu en 1980 et qui fera une centaine de morts. La version officielle de ces massacres, celle qui est défendue par le pouvoir, c'est que les auteurs des attentats sont des militants d'extrême gauche ou d'extrême droite. Et en novembre 1974, un an avant sa mort, Pasolini remet en cause cette version officielle dans un article des écrits corsaires. Il déclare même connaître les noms de ceux qui les ont planifiés avec l'aide de la CIA et des services secrets. Et sans nommer personne, il dénonce l'implication de la démocratie chrétienne et sa stratégie de la tension, une stratégie qui est avérée aujourd'hui et qui consiste pour le pouvoir à créer la peur autour des communistes et des fascistes d'extrême droite, dans le but de renforcer l'autorité du régime. Dans les lettres luthériennes, plusieurs articles qui vont paraître dans la presse en août et en septembre 1975, soit quelques semaines avant l'assassinat de Pasolini, Pasolini appelle à faire un grand procès aux dirigeants de la démocratie chrétienne dans ses articles. Il rappelle leurs très nombreux crimes, leur mépris pour les citoyens, leur responsabilité dans le cataclysme anthropologique de la société de consommation, dans la stupidité criminelle de la télé, dans la ruine des services publics, dans la destruction des cultures, des valeurs et des paysages italiens, leur combine avec des banquiers, les industriels, les pétroliers, la mafia, la CIA. Il les accuse de haute trahison en faveur d'une puissance étrangère, leur corruption, le maintien d'un vieux système de favoritisme clérical fasciste, la manipulation d'argent public, la distribution des fonctions publiques à des courtisans. Enfin, leur responsabilité dans les massacres de 69 et 74. À 53 ans, Pier Paolo Pasolini est assassiné dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975, il y a exactement 47 ans, presque jour pour jour. Son corps est retrouvé atrocement mutilé, presque méconnaissable, complètement écrasé, sur la plage de Rome à Ostie. Cet assassinat, c'est un des événements majeurs de l'histoire italienne des années 70, on est alors au milieu des années de plomb. Un jeune homme de 17 ans, Giuseppe Pelosi, se fait arrêter et avoue immédiatement le crime. Pendant des décennies, il va y avoir donc une version officielle. Il s'agit officiellement d'une affaire de mœurs, d'une relation sexuelle entre les deux hommes qui aurait dégénéré en bagarre et qui se serait malencontreusement terminée en homicide. Puisque l'homosexualité est alors perçue comme un crime, cette thèse peut être diffusée facilement. Pourtant, l'autopsie a montré très tôt qu'il y a eu non pas un seul mais plusieurs assassins. D'autre part, Pasolini était absolument non violent, pas du tout porté sur la bagarre ni sur la violence physique. Dès son assassinat, de nombreuses personnes, parmi lesquelles des proches, sont convaincues qu'il s'agit d'un assassinat politique qui implique des fascistes et des mafieux. Juste avant sa mort, Pasolini avait évoqué à son entourage des menaces et il avait dit à certaines personnes qu'il était en possession de documents importants depuis peu, des documents qui concerneraient peut-être la démocratie chrétienne. En dehors du film « Salaud » qui était sur le point de sortir en salle, il était en train d'écrire un roman, « Pétrole », qui paraîtra à titre posthume, qui dévoilait les coulisses de certains attentats liés à la stratégie de la tension. Pasolini en savait sans doute trop sur certains attentats, notamment celui de Piazza Fontana. En 2005, 30 ans après le crime, celui qui s'était accusé seul du meurtre et longtemps après sa sortie de prison retire ses aveux. Alors Pelosi ajoute, hein, il retire ses aveux, il ajoute qu'il avait avoué à l'époque sous la menace de quelques personnes. L'enquête est donc rouverte en 2005, mais de nombreux éléments seront constamment négligés par la justice italienne. Il y a notamment des témoins du crime qui n'ont jamais été interrogés. L'enquête sera finalement classée en 2015. Dans la biographie de Pasolini écrite par René de Secati, qui vient d'être rééditée là, en 2022, dans cette nouvelle réédition, il retrace assez précisément les étapes détaillées de l'enquête. On peut aussi évoquer deux films hein, qui ont mis en scène cet assassinat, celui d'Abel Ferrara qui s'appelle Pasolini et celui de David Grieco qui s'appelle L'affaire Pasolini. On ne sait pas aujourd'hui qui a tué Pasolini. Personne n'a la preuve qu'il s'agisse d'un crime politique. Mais on sait une chose, c'est combien étaient nombreuses les personnes qui avaient pour intérêt de le mettre hors d'état de nuire, des fascistes de la démocratie chrétienne à ceux de l'extrême droite. Ce qu'on sait, c'est que Pier Paolo Pasolini a sans doute payé de sa vie son acharnement à dire la vérité.
Pour cette émission sur Pier Paolo Pasolini.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi.
Je rappelle rapidement les livres dont tu as tiré tout ce que tu nous as dit. Donc, il y a Les Lettres luthériennes, Petit traité pédagogique aux éditions. Enfin, là, j'ai une édition poche. Point, je sais pas.
Voilà. Ouais,
il y a Les Écrits corsaires. Ça, c'est aux éditions Champ Art, c'est ça?
Oui, ouais, je sais pas, bon, j'ai pas regardé trop les éditions, mais
voilà,
en tout cas,
les
c'est
écrits
en
corsaires et Le Chaos. Et ça, c'est aux éditions. Je cherche hein, Rouge et Noir, du Rouge et Noir. Donc, ben, merci beaucoup pour cette émission qu'on va vite rapidement mettre en ligne pour qu'on puisse la réécouter au podcast parce qu'il y a de quoi écouter et réécouter.
Merci
on se retrouve, nous, dans un mois, le premier jeudi du mois de décembre. En attendant, ben, bonne soirée sur Radio Audio et à bientôt.
Bonsoir.